L'avait de l'Amérique.
Jacques Aristide dans la capitale américaine et c'est parti pour un nouveau numéro de Washington Forum. Plein feu cette semaine sur les débats qui agitent la société américaine à la veille du jour de l'indépendance des États-Unis le 4 juillet.
Le projet de plainte des républicains contre le président Obama pour abus de pouvoir, le droit du port d'armes, l'avortement, le mariage homosexuel ou encore les libertés individuelles, après le scandale des écoutes de la NSA, autant de questions qui divisent les Américains, tour d'horizon de ces sujets qui remuent le pays de l'oncle Sam.
Washington Forum.
Bienvenue et mille merci de votre fidélité à la VOA, au programme également. Nous ferons une courte escale au Brésil pour les dernières nouvelles de la Coupe du Monde 2014. Mais revenons au plat principal, les questions sociétales qui enflamment les esprits aux États-Unis. Très souvent vient à l'avant-plan la déclaration des droits, c'est-à-dire l'ensemble des 10 premiers amendements à la Constitution américaine. Elle limite les pouvoirs du gouvernement fédéral et garantit les libertés. Le décryptage de Robert Daguillard.
La fête nationale des États-Unis le 4 juillet tombe à la belle saison, celle où il fait beau et chaud et où on va voir les défilés.
C'est le 4 juillet, le jour de l'indépendance. C'est sympa de faire la fête avec tout le monde.
Et ici, à Washington, on aime écouter les concerts en plein air. Cette fête nationale marque également la commémoration d'un idéal démocratique né de l'indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776. L'un des éléments de cet idéal, le droit de manifester pour ou contre les causes les plus diverses, que ce soit le droit à l'avortement ou, comme ici, les droits des couples du même sexe.
Il y a de la discrimination, beaucoup de discrimination à notre endroit. Et les lois qui protègent l'accès au logement ne s'appliquent pas à nous.
Ce qui n'empêche personne d'exprimer un point de vue opposé.
Je ne suis peut-être pas d'accord avec leur mode de vie, mais je suis venu pour leur dire que Dieu les aime et non pas pour les condamner.
Autre sujet de discorde, le droit de signifier son désaccord avec la politique du gouvernement américain, parfois même en brûlant le drapeau national. Aux grandes dames de certains.
Mon père est venu leur dire de ne pas porter le drapeau américain à l'envers. Et ils l'ont bousculé. Et lui ont lancé des grossièretés. C'est un ancien combattant de plus de 60 ans. Bon sang, si vous n'êtes pas content ici, allez vivre ailleurs. Il y en a qui se battent pour votre liberté. C'est absurde.
En 1989, la Cour suprême des États-Unis a rendu un arrêt selon lequel l'acte de brûler un drapeau américain est une forme légitime d'expression politique. Robert Daguillard, La Voix de l'Amérique, à Washington.
Merci Robert. Voilà des sujets qui requièrent le nécessaire éclairage de nos invités. À New York, Maître Matthew Galluzzo, avocat pénaliste et spécialisé dans la défense des droits humains. Merci de nous rejoindre, Maître.
Ah, bonjour, merci.
Et j'ai également le plaisir d'accueillir le professeur Amadou Koné de l'Université de Georgetown, située à Washington. Mais le professeur séjourne en ce moment dans le Minnesota, en direct d'une petite ferme. Merci, professeur.
Merci de m'avoir invité.
Voilà, je voudrais d'abord aborder la dernière polémique en date. Le président républicain de la Chambre des représentants, John Boehner, veut introduire en ce mois de juillet un projet de loi permettant à la Chambre de poursuivre le président américain en justice. Les républicains reprochent à Barack Obama une série de décrets et décisions qui outrepassent, selon eux, ses pouvoirs réglementaires, notamment une régularisation temporaire de certains jeunes sans papier en 2012. Maître Galluzzo, la Constitution américaine donne-t-elle à la justice fédérale le pouvoir d'arbitrer les différends entre les pouvoirs législatifs et exécutifs?
Non, pas exactement. La Constitution donne à la Chambre des représentants le pouvoir de porter plainte contre le président pour abuser ses pouvoirs exécutifs et un juge ou un cour fédéral peut décider cette question. Mais c'est très difficile à convaincre un juge que le président a abusé ses pouvoirs exécutifs parce que le président est vraiment puissant Et aussi, il faut se souvenir que même si un juge quelque place déclare que le président a abusé ses pouvoirs exécutifs, c'est la responsabilité du président de mettre en œuvre les décisions judiciaires. Et donc, c'est lui qui peut décider de suivre les instructions judiciaires ou non. Et donc, M. Obama, le président, il n'a pas de peur du tout de cette plainte. Vraiment.
Il n'a pas peur, voilà. Il faut dire que le républicain Boehner est le numéro 3 dans l'ordre de succession présidentielle. Pour Barack Obama, ce n'est qu'un coup de pub. Professeur Koné, s'agit-il d'une manœuvre politique à environ 4 mois des élections de mi-mandat? Est-ce parce que les républicains espèrent conquérir l'autre chambre du Congrès, le Sénat?
Je crois que les observateurs peuvent penser que tout cela entre dans le contexte de la politique politicienne, n'est-ce pas? Cette politique politicienne est faite de publicités, de tentatives de jeu avec l'opinion publique, avec des visées sur l'électorat, etc. Et donc, je crois que cette expression du fait que les représentants républicains pourraient éventuellement poursuivre le président, cela fait partie de cette campagne de publicité en vue des élections législatives qui vont avoir lieu. Et peut-être que les républicains espèrent effectivement gagner des sièges au Sénat et éventuellement conquérir le Sénat. Voilà. Tout cela entre dans ce contexte. Oui.
Alors, professeur, nous savons également que des parlementaires républicains et démocrates confondus ont récemment dénoncé l'échange de 5 prisonniers talibans contre le soldat américain Bo Bergdahl en Afghanistan, dont le Congrès n'avait pas été préalablement informé, comme la loi le prévoit pourtant. Maître Galuzzo, y a-t-il eu abus de pouvoir dans ce cas?
Oui, un peu, parce qu'il y a une loi qui s'appelle le National Defense Authorization Act. C'est une loi que le président a signée lui-même. Et sous cette loi, le président doit notifier le Congrès 30 jours après qu'un échange comme ça est fait pour obtenir l'autorisation du Congrès pour faire l'échange. Et en ce cas, le président dit qu'il a notifié la Chambre des représentants et le Congrès en décembre de la possibilité qu'il aurait besoin de faire un échange comme ça en futur pour M. Bergdahl. Mais il dit maintenant que quand il a fait l'échange, c'était une situation d'urgence. Il avait besoin de faire l'échange immédiatement parce que c'était une question de la santé de M. Bergdahl. Et il y a une exception dans la loi qui dit qu'avec une situation d'urgence, le président peut faire ça, peut-être. Mais c'est un peu délicat, cette question. Peut-être qu'il a abusé son pouvoir un peu.
Oui, d'accord. On va essayer d'aller rapidement maintenant. Professeur Koné, comme se le demande le Los Angeles Times, qui poursuivra en justice le Congrès qui semble incapable d'effectuer, d'après le journal, la plus basique de ses missions, réaliser les réformes promises?
Bon, ce qu'il faut noter en tout cas, c'est qu'il y a un certain immobilisme de cette vie politique ici. Cela a commencé avant la présidence de M. Obama et ça continue sous lui de façon encore plus prononcée, où il est très difficile d'arriver à résoudre les problèmes parce que la vie politique est crispée, chacun campe sur ses positions, et tout cela pour des gains que personne ne fait d'ailleurs, et il y a cet immobilisme de la vie politique. Donc, quand les républicains disent qu'ils vont poursuivre M. Obama, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est simplement un peu de publicité. Je ne crois pas que cela soit une chose qui va se concrétiser.
Voilà. Professeur, je suis désolé, on va aborder d'autres aspects. Parlons d'un autre sujet qui fait encore couler beaucoup d'encre, le droit du port d'armes, protégé par le Second Amendement au même titre que la liberté d'expression ou de culte. 300 millions d'armes à feu sont en circulation, soit une par habitant. En moyenne, plus de 30 000 personnes sont tuées chaque année par une arme à feu. Pour des observateurs, l'un des obstacles majeurs à toute solution radicale et définitive au problème est constitutionnel. Maître Galuzzo, est-il impossible d'imaginer l'annulation de ce fameux second amendement de la Déclaration des droits ?
Non, je doute ça sérieusement. C'est presque impossible d'imaginer une tragédie plus terrible que ce qui est passé à Newtown récemment. J'habite tout près là. Et même avec tous ces étudiants tués, rien n'a vraiment changé. Et donc les lois concernant les fusils restent les mêmes, même après ça. Et donc j'espère qu'un jour, on aura des limitations un peu raisonnables avec des fusils militaires ou de porter les fusils en public ou des pistoles en poche. Mais vraiment, il y a un groupe de pression qui s'appelle la National Rifle Association qui a trop de pouvoir. Et les politiciens, ils ont peur de ce groupe de pression, parce que les fusils sont très populaires ici. Mm-hmm. Ça, c'est le problème. Il y en a plus des armes à feu que citoyens américains ici. Et donc, vraiment, je doute ça. Ça va durer, le deuxième amendement.
Oui, vous avez parlé de Newtown, où justement 20 petits écoliers avaient été abattus de sang-froid par un assaillant de 20 ans, lourdement armé. Professeur Koné, Barack Obama a-t-il l'opportunité politique non seulement d'agir, mais surtout de faire agir le Congrès ?
Je crois qu'il a essayé dans tous ses discours, après chaque catastrophe, n'est-ce pas ? Car il y en a eu plusieurs. Il fait comprendre de façon claire qu'il est opposé à cette situation où les armes circulent de façon libre. Mais sa situation est délicate parce que le groupe de pression dont a parlé mon collègue est tellement puissant que même les démocrates en ont peur. Et chacun obéit, n'ose pas vraiment s'opposer au NRA. Et donc, bien que le président manifeste sa volonté de lutter contre les armes, bien qu'il y ait quelques personnes qui manifestent leur volonté, des journalistes par exemple, je crois qu'il est pratiquement impossible dans l'état actuel des choses de faire quelque chose, n'est-ce pas ?
L'avortement, autre sujet de conflit revenu au cœur du débat après le verdict de la Cour suprême américaine en faveur des entreprises qui pourront désormais refuser de couvrir le coût des contraceptifs au nom de leur opinion religieuse. Maître Galuzzo, est-ce un pied de nez à l'Obamacare, la réforme du système de santé ?
Oui, c'est un pied de nez à Obamacare, peut-être aussi un pied de nez aux femmes, peut-être. Mais ce qui est vraiment important, je crois, avec cette décision, c'est on va voir en futur cette exception religieuse. Qu'est-ce que ça veut faire avec des autres situations? Est-ce que ça va changer des autres choses? Parce que c'était ça qui a donné le pouvoir à Hobby Lobby à décider de ne payer pas pour les contraceptifs pour leur corporation. Et donc, c'est une décision qui peut impliquer des autres choses très importantes.
Alors, il faut dire que certains contraceptifs, comme la pilule du lendemain, sont assimilés à l'avortement. Mais professeur Koné, la Cour suprême a-t-elle accordé aux entreprises le droit inédit d'imposer leur vision religieuse à leurs salariés?
D'une certaine façon, oui. Même si certains membres, n'est-ce pas, qui ont voté pour cette règle disent qu'elle est assez restreinte, n'est-ce pas, s'applique à une catégorie restreinte d'entreprises. Mais là encore, je redis la même chose, il faudrait attendre de voir quelles sont les entreprises qui pourront bénéficier du jugement de la Cour suprême. Et c'est là que les véritables problèmes vont se poser. Est-ce que ça sera étendu à un grand nombre d'entreprises? Et certaines grandes entreprises avec de grands employés, un grand nombre d'employés, vont vouloir utiliser cette règle dite par la Cour suprême. C'est là où les problèmes vont se poser, n'est-ce pas ?
Voilà, nous retrouvons nos invités dans un petit instant, le temps d'une courte pause. On devrait peut-être faire une petite pause maintenant. Je pense que ça va se faire.
insta.voabrésil2014.com.
Jacques Aristide, de nouveau avec vous. Nous passons au crible à ces questions qui font débat aux États-Unis. Nos invités, professeur Amadou Koné de l'Université de Georgetown et l'avocat Matthew Galuzzo. D'emblée, quelques-uns de vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Aingo Andrianor, d'Antananarive, Madagascar. Si l'Amérique annule le mariage homo, l'Afrique va suivre ses décisions. Edmond Ramazani de Kinshasa. L'avortement n'est pas un acte à tolérer, mais l'Afrique peut apprendre à des Américains, notamment concernant la gestion et la redistribution du revenu national. Pour la Coupe du Monde, la ville de Lubumbashi a célébré avec joie la victoire de la Belgique face aux États-Unis et espère la voir en finale. On en parlera tout à l'heure, évidemment. Nangis Gaïdé de N'Djamena, sachons, nous, Africains, tirer toutes les leçons de la réélection de Barack Obama au nom de la paix et la stabilité de nos pays et le bonheur de nos peuples. Et Bali Traoré de Bamako, je pense qu'on ne doit en aucun cas autoriser le port d'armes aux citoyens. L'État doit tout faire pour sécuriser ses citoyens. Voilà, réaction de nos téléspectateurs. Mais qu'en pense la diaspora africaine aux États-Unis? Roger Muntou a été à la rencontre de quelques-uns d'entre eux. Salut Roger.
Salut Jacques. Les personnes d'origine africaine constituent l'un des plus grands groupes ethniques non européens aux USA. Ils sont pour la plupart devenus citoyens américains et nous avons rencontré certains en Virginie pour recueillir leur point de vue sur la déclaration de droit ou la United States Bill of Rights.
René Tiasuma est gérant de BTH, une maison d'achat et des réparations des pneus. Il vit aux USA avec sa femme et son fils depuis 15 ans. Ce citoyen américain est originaire du Congo.
Oui, la déclaration des droits, c'est une bonne chose pour les États-Unis parce que si j'ai une bonne mémoire, c'est une déclaration qui a été faite en 1799. Et cette déclaration avait aussi ses devoirs parmi ces déclarations. Et parmi ces déclarations, il y en a ceux qui sont bénéfiques pour les Américains et il y en a d'autres qui sont controversés en voyant par rapport à mon pays d'origine d'où je viens. Donc c'est un peu difficile de partager des avis avec eux.
Pour ces Africains qui contribuent à l'économie de leur pays d'accueil, la liberté aux USA est un peu exagérée par rapport à leur pays d'origine. Paul Siladin est venu du Togo. Il est marié et père de 4 enfants. Ce citoyen américain est directeur du marketing d'une grande maison de vente d'alcool.
Je crois que vraiment, comme tu l'as dit, il y a vraiment trop de liberté. Il y a les citoyens qui amènent ça un peu plus loin. C'est mon avis.
René, lui aussi, est d'accord.
Effectivement, aux États-Unis, c'est un pays de freedom. Il y a plein de libertés ici, mais une liberté qui est régularisée.
Mais que pense-t-il du droit des homosexuels?
Je défends la valeur de la famille. Les enfants sont issus d'un père et d'une mère. C'est à eux qu'il faut penser. Ils ne doivent pas être les victimes des adultes, même s'il y a de l'amour derrière les gays. Mais moi, il y a une motivation religieuse.
Le deuxième amendement à la Constitution des États-Unis d'Amérique garantit pour tout citoyen américain le droit de porter des armes. Pour les parents, ce n'est pas chose facile.
Récemment, pas plus tard que le mois passé, non, la semaine passée, je vais dire, il y a un enfant qui a été tué simplement parce qu'il a essayé de jouer un peu avec l'arme de son papa. On ne peut pas mettre ça à côté de mes enfants, ils ne savent pas ce que c'est. Même s'ils le savent, l'enfant ne sait pas faire le jugement et il peut l'utiliser à tort et à travers. Donc je ne suis vraiment pas pour le port d'armes. Ouais.
Il y a une partie qui est bénéfique et une partie qui est contre aussi. Par exemple, ici, il y a plusieurs bénéfices à la légalisation du port d'armes. Premièrement, il dissuade les criminels, les cambrioleurs, à moins enclins à voler dans des maisons, de peur de se faire tuer. Les armes à feu sont également équilibrées, équilibrent le rapport de force entre agresseurs et victimes. Et c'est là que vous verrez que si vous avez une arme chez vous à la maison, un voleur ne viendra pas vous frapper à la porte. Ce sera ça.
Et Jacques, je dois ajouter que pour ces citoyens américains d'origine africaine, tout le monde doit jouir de la liberté d'expression, pas seulement ici aux États-Unis, mais aussi ailleurs sur la planète, comme en Afrique notamment. Jacques.
Merci bien, Roger. Oui, la liberté d'expression, mais il y a également le mariage homosexuel qui est reconnu dans 19 États sur 50, en plus de Washington, D.C. Le Parti républicain prône un amendement à la Constitution qui définirait le mariage comme l'union entre un homme et une femme. Maître Galluzzo, est-ce un amendement qui pourrait voir le jour ?
Non, je doute ça sérieusement parce qu'on trouve en général que l'idée du mariage homosexuel aux États-Unis devient plus et plus accepté. J'ai lu quelque part qu'en 1996, que 27% étaient d'accord avec le mariage entre deux hommes. Mais maintenant, en 2014, c'est presque comme 55% sont d'accord avec cette idée. Et vraiment aussi avec les jeunes, entre les jeunes, c'est presque complètement accepté. Mm-hmm. Et donc, moi, je crois que c'est plus probable en futur qu'on aura le mariage homosexuel. Ça serait légal tout partout des États-Unis. Ça, c'est plus probable, je crois, que cet amendement proposé maintenant pour annuler le mariage homosexuel.
Professeur, connaissez-vous qui pouvez nous donner une perspective africaine? Pourquoi ce sujet diffuse autant les Américains?
Mais je crois que c'est un sujet auquel tout le monde est sensible, pas seulement les Américains, mais les citoyens du monde entier, parce que historiquement, il y a une certaine idée du mariage, et cette idée a été confortée et construite, quelquefois renforcée à cause de la religion. Mais maintenant, elle change, et il est bon qu'elle change, parce que l'idée du mariage doit être beaucoup, beaucoup plus large, n'est-ce pas? Et elle tient compte de beaucoup d'autres choses. Pas seulement des problèmes de religion, mais également des problèmes sociaux, des problèmes de gestion, des liens entre les personnes, de leurs intérêts, etc. Et donc, il est tout à fait normal que ce problème soit conçu et analysé différemment et qu'il ne puisse plus être posé uniquement dans les termes étroits d'union entre un homme et une femme.
Oui, voilà. C'est vrai, il y a le droit du port d'armes, l'avortement, le mariage homosexuel ou encore les libertés individuelles, hein, après le scandale des écoutes de la NSA. Mais dites-nous, quels sont les enseignements que l'Afrique peut tirer de ces dossiers brûlants aux États-Unis, professeur Koné?
À mon avis, l'Afrique a beaucoup à apprendre, n'est-ce pas? Une première chose, quand on considère le Bill of Rights, c'est les limites, n'est-ce pas, au pouvoir du gouvernement central, n'est-ce pas? Le gouvernement central ne doit pas être tout puissant. Il faut qu'il y ait des limites à son pouvoir. Les libertés sont fondamentales, n'est-ce pas? Les libertés individuelles, il faut qu'elles soient respectées, que l'État protège l'individu et lui permette d'avoir ses libertés. Mm-hmm. Dans les interviews qu'on a eues tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il y a trop de liberté. Il ne peut pas y avoir trop de liberté.
Professeur, malheureusement, je dois vous interrompre maintenant. Alors, dites-moi, monsieur, suivez-vous la Coupe du Monde de football en ce moment?
Absolument.
Oui, alors, eh bien, restez avec nous, car nous mettons le cap maintenant sur le Brésil, où se déroule, bien évidemment, la grand-messe footballistique. Mais avant d'en parler, gros plan sur les favelas, ces fameux bidonvilles brésiliens. Sur les 6,3 millions d'habitants de Rio de Janeiro, 1,4 million vivent dans les 1000 favelas de la ville. Des favelas où le crime organisé est monnaie courante. Pour mettre un terme au règne des gangs, le gouvernement a lancé en 2008 la campagne de pacification des favelas. Nicolas Pineau s'est rendu dans l'une d'elles. Reportage.
Tavares Bastos se dresse sur les hauteurs de Rio. Cette favela est l'une des réussites qui rend si fiers les autorités brésiliennes. Ici, la campagne de pacification contre les trafiquants a porté ses fruits. La drogue n'est plus qu'un mauvais souvenir pour ses habitants.
Les gens avaient peur parce que tristement, on se faisait tirer dessus. Nous n'étions pas libres en raison de l'intimidation venant des trafiquants de drogue.
Les services publics n'ont jamais vraiment déserté la favela. La police a nettoyé le quartier et les habitants apprécient surtout la sécurité retrouvée. Les enfants peuvent désormais jouer au foot sans peur des balles perdues. Un Britannique a même ouvert un hôtel dans Tavares. La favela a bien changé en 50 ans.
Cela fait plus de 50 ans que je vis ici. Avant, il n'y avait pas de maison, pas d'eau, pas d'électricité. Ce sont des maisons en bois qui ont été construites ici. Mais il n'y avait rien.
Les choses ont bien changé, mais la favela reste synonyme de pauvreté. La débrouille est quotidienne pour ceux qui y vivent. Comme toujours, au pays du football, les mères espèrent que leurs fils s'en sortiront grâce au ballon rond.
C'est très calme maintenant. Je n'ai pas à me plaindre. Nous sommes en sécurité. Tout est normal. J'espère que mes fils deviendront des footballeurs professionnels. On les entraîne ici même. Je travaille dur pour qu'ils réalisent leur rêve de joueur de foot.
Tavares Bastos est un exemple réussi, mais les trafiquants de drogue n'ont pas disparu au Brésil. Ils se sont juste réfugiés dans d'autres favelas qui, elles, ne sont toujours pas pacifiées. Une réalité que les autorités préfèrent ne pas évoquer. Nicolas Pino, Rio, pour la Voix de l'Amérique.
Venons-en à la Coupe du Monde à proprement parler maintenant. Le coup près est malheureusement tombé cette semaine pour l'Afrique et les États-Unis, Nicolas.
Et oui, Jacques, les États-Unis ont été éliminés ici à Salvador par la Belgique, 2-1 en prolongation. Les Américains n'ont pas démérité, ils ont été vaillants, mais que ce fut dur, notamment en attaque, ils ont pêché par manque d'efficacité offensive, notamment le capitaine Dempsey qui aurait pu égaliser dans les dernières secondes. Les Américains qui rentrent donc à la maison. La Belgique, elle, continue face à l'Argentine. Les Argentins se sont qualifiés également en prolongation face à la Suisse. L'Argentin Lionel Messi, la star, a délivré un véritable caviar pour Di Maria qui a transformé à la 118e minute. Les deux équipes sont passées par la prolongation. Il faudra donc faire attention aux problèmes de fraîcheur lors de ce quart de finale. Dans l'autre quart de finale de ce tableau, il y aura les Pays-Bas et son armada offensive, Robin Van Persie mais aussi Schneider qui affronteront l'étonnante équipe du Costa Rica. Le Costa Rica, première participation en quart de finale de l'histoire d'une Coupe du Monde. Et puis de l'autre côté, Jacques, on aura évidemment la Seleção, l'équipe brésilienne qui affronte une autre équipe sud-américaine. Ce sera la Colombie. Neymar, qui avait été un temps annoncé incertain, sera finalement présent sur la pelouse. Attention, ce sera beaucoup plus dur que contre le Chili, puisque les Colombiens comptent dans leur rang. James Rodriguez, c'est le meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations. Enfin, si jamais les Brésiliens passent l'obstacle colombien, il y aura la demi-finale. Cette demi-finale sera contre le vainqueur de France-Allemagne. Les deux équipes européennes se connaissent bien. Elles se sont déjà affrontées plusieurs fois en phase finale de Coupe du Monde. Il faudra donc surveiller Thomas Müller, le meilleur attaquant allemand, contre la jeune génération française. Mathieu Valbuena, Paul Pogba ou encore Griezmann. Nous parlerons ensemble de ces demi-finales la semaine prochaine, Jacques. Nicolas Pino, Salvador, pour la Voix de l'Amérique.
Merci bien Nicolas. Quelques poignées de secondes avant de terminer. Maître Galvuzzo, vraiment dommage pour l'équipe américaine.
Oh, je suis très fier de mon équipe des États-Unis. Ils ont bien fait la Coupe mondiale. Mais on n'a pas tellement bien joué avec la Belgique, mais c'était un plaisir d'être ici. Merci encore pour aujourd'hui.
Je vous en prie. Même peut-être dans 4 ans, on ne sait jamais. Et professeur Koné, la Côte d'Ivoire également dommage, mais une équipe qui n'a pas démérité non plus.
Non, la Côte d'Ivoire n'a pas démérité. On aurait souhaité qu'elle aille beaucoup plus loin et c'était possible car c'est une excellente équipe. Mais ce but à la 95e minute. Finalement, c'était une grande malchance, mais c'est le sport et nous espérons pour la prochaine fois mieux faire.
Mieux faire. Voilà, vous l'avez compris, maître professeur Koné qui est d'origine ivoirienne. Évidemment, on va suivre tout ça. Rendez-vous également avec notre site internet qui couvre certainement la Coupe du Monde. Voilà, merci à nos invités, Matthew Galuzzo et professeur Amadou Koné de l'Université de Georgetown. Bonne fête de l'indépendance aux Américains. Comme d'hab, petit clin d'œil à nos radios et télépartenaires. Et là, je salue mes confrères de TV7 au Togo. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous encore une fois cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.